wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good. Toujours 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'un homme ou d'une femme qui partage ses ondes positives. Le but de ce partage, c'est de nous donner des bonnes idées, nous donner aussi envie de s'engager et de se bouger. Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est un adepte du copartage, il a développé une plateforme numérique, il s'appelle Christian Finance et c'est notre invité.
So good, so good.
Bonjour Christian.
Bonjour Christophe.
On se connaît depuis pas longtemps. C'est suite au harcèlement cet été d'une amie qu'on se connaît, qui est présente dans nos studios et que je tiens à saluer parce que c'est une amie de longue date. Elle s'appelle Véronique Seret, je l'aime énormément. Voilà, merci ma Véro. Merci de cette fidélité en amitié et de cet harcèlement estival qui m'a permis de rencontrer Christian Finance. Voilà comment ça se passe, les invités dans I Feel Good. C'est aussi de la recommandation. Donc on ne se connaît pas plus que ça, Christian. Mais on a appris à se connaître parce que tu es venu avec ta petite carte postale, tu m'as parlé de copartage, tu m'as mis ça sur mon bureau, puis on a commencé à parler de copartage. Qu'est-ce que c'est que copartage et d'où ça vient et à quoi ça peut servir ?
Oh, ce serait long de tout décrire.
Alors on va commencer, ça vient d'où ? L'intuition vient d'où ?
D'un savoir-faire technique. En fait, je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie, je suis ingénieur en informatique, je fais du digital depuis 40 ans maintenant. Mais en tout cas, à un moment de ma vie, dans les années 2010, je me suis rendu compte qu'il y avait des technologies digitales qu'on connaît tous, hein, les plateformes d'échange entre particuliers, ce qu'on appelle l'économie collaborative, mais aussi des solutions plus technologiques, et en particulier les crypto-monnaies, toute cette dimension finalement d'ingénierie financière. Et à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, est-ce que tout ce que j'ai vécu...
Ne partez pas, c'est pas parce qu'il emploie des mots barbares, crypto-monnaie, qu'il faut partir. On va vous expliquer ça, et vous allez comprendre dans quelques instants que c'est très concret et très fait pour vivre mieux ensemble. Vas-y, Christian.
Tout à fait. Donc en tout cas, je me suis dit à un moment donné de ma vie, est-ce que toutes ces bagages et cette accumulation et ces intérêts que je pouvais avoir pour les technologies et puis finalement aussi les dimensions sociales, est-ce que ça pouvait apporter dans la société ou est-ce que finalement je n'avais pas accumulé tout ça parce qu'il y avait quelque part... Une mission, si je puis dire, enfin quelque chose qui dans ma vie allait donner du sens et pour le reste de ma vie, hein, parce que je suis engagé finalement dans une dynamique à la fois d'action, d'entraide, d'être solidarité, et ça dirige aujourd'hui toute ma vie.
On va voir d'où ça vient, on va voir pourquoi. Donc copartage, c'est une plateforme très concrète sur Internet.
Exactement. Donc copartage, c'est un site Internet. copartage.fr. Je signale que copartage s'écrit pas ni en deux mots ni avec un tiret.
Non, en français, c'est copartage.
Oui. Voilà. L'idée, c'est le collaboratif, le co comme le coéquipier, et puis le partage. Hein, donc l'idée d'une générosité, de partager l'usage des biens et de partager aussi et d'offrir nos talents en partage.
Alors concrètement.
Je voulais que ce soit une plateforme d'entraide et de solidarité, mais cette entraide et cette solidarité n'exclut pas la possibilité de l'échange, c'est-à-dire de l'idée que quand je partage quelque chose, je puisse l'échanger contre autre chose. Alors, je donne un exemple de service, hein, un cours de guitare contre un cours de cuisine, etc. Donc je peux mobiliser mes ressources personnelles pour les partager, et en contrepartie, je reçois aussi ce que partagent les autres membres de la communauté. Donc les co-partageurs sont des partageurs.
Donc si on garde cet exemple, je donne un cours de guitare, je vais le monnayer, ça va avoir une valeur.
Oui, alors très exactement, oui. Je ne vais pas le monnayer, on va le valoriser.
Voilà.
Hein, c'est-à-dire que ce cours de guitare a une valeur, elle est connue. On la trouve en tapant prix moyen cours de guitare sur Google. Et donc, nous, notre démarche consiste sur la plateforme à dire tu proposes 10 heures de cours de guitare, ok, très bien. Et bien, à ce moment-là, on va créditer de ton compte. Le prix moyen, c'est 25€ pour un cours de guitare. Donc, on va installer sur le compte 250€ qu'on appelle solidaire, euros solidaires. C'est le nom de la monnaie, hein, donc qui équivalent en définitive à la valeur de ce que je partage.
Donc ça, c'est l'euro solidaire, pour que ça soit bien concret, c'est aussi ce que tu évoquais tout à l'heure, des crypto-monnaies, cet esprit-là, mais c'est-à-dire que c'est symbolique, c'est vous avez, parce que vous donnez une heure, vous avez 25€ solidaires dans votre porte-monnaie que vous allez pouvoir utiliser.
Exactement, hein, qui est un porte-monnaie digital pour le coup, hein, c'est un compte, comme on ouvre un compte, comme on peut l'ouvrir sur les plateformes habituellement, et on a donc un compte monétaire associé, et c'est sur ce compte-là qu'on va positionner les
euros. Et avec ces 25€ solidaires, par exemple, tu as besoin d'un conseiller en jardinage, tu peux avoir quelqu'un qui donne du conseil en jardinage.
Exactement.
Et qui
on va choisir parmi les offres qui sont présentes dans le catalogue.
Alors, là, on est sur du service, j'allais dire. Ça peut être du bien aussi. Par exemple, imaginons, on fait une grosse crémaillère et on a besoin de je sais pas,
barbecue.
voilà, deux barbecues. Ça commence à être la fin, là. Mais oui, voilà. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un barbecue?
Oui, oui. Bah, en fait, on dispose des moyens d'acheter, en quelque sorte, on va le mettre entre guillemets, puisque ça se fait avec cette fameuse monnaie virtuelle, sur la plateforme, d'échanger donc contre d'autres biens et d'autres services.
Donc on est bien d'accord entre nous, il n'y a pas question d'argent, Christian.
Il n'est pas question d'euros.
Il n'est pas question d'euros, mais il est question de solidarité et d'euros solidaires.
Exactement.
Donc tu transformes cette monnaie, le temps que tu peux donner, les moyens que tu peux mettre à disposition,
oui.
Tu en fais une œuvre de solidarité, une monnaie de solidarité.
Oui, alors en quoi c'est une monnaie de solidarité, en quoi c'est une œuvre de solidarité? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes en situation de difficulté n'ont que très peu d'euros.
Oui, mais alors là, tu arrives tout de suite sur les personnes en situation de difficulté. On va se garder ça un petit peu parce que c'est un domaine que tu veux promouvoir, mais, et j'entends la légitimité humaniste derrière cet engagement, mais cette plateforme Copartage, elle s'adresse à tous.
Oui, et c'est justement là que c'est intéressant parce que l'accessibilité, le fait qu'elle soit gratuite, le fait que, très franchement, on a pratiquement, je dis pratiquement parce qu'il y a des cas d'exception tout de même, mais pratiquement tous quelque chose à partager. On a des talents, on a des objets, on a des passions qui peuvent être partagées.
On a un peu de temps, tout simplement.
Et un peu de temps pour tenir compagnie, par exemple.
Compagnie,
bien sûr,
voilà,
bien sûr, tout à fait, tout à fait. On a tous finalement quelque chose à partager. Et donc c'est là où ça devient très intéressant dans la notion d'accessibilité. C'est accessible à tous. Et ça veut dire qu'une personne qui se trouve en situation de difficulté peut recevoir un soutien, mais a aussi, dans ses ressources personnelles, des ressources nécessaires pour pouvoir rendre l'ascenseur, si je puis dire. Et donc prendre part à la dynamique de solidarité, puisque du coup, elle renforce l'offre de services pour les personnes déshéritées, on va dire, ou en situation de fragilité ou de précarité financière, sont des personnes qui ont du temps disponible, beaucoup, et donc par conséquent peuvent rendre des services, alors jardinage, etc. Enfin, il y a plein de services à rendre. Hein.
Un petit bout de course, un petit peu de prendre un café avec une personne seule.
Pourquoi pas, oui, bien sûr.
Cette idée, Christian, donc, elle est ouverte à tous, elle existe depuis combien de temps? Elle se développe comment? Et elle est régulée comment? Alors, elle existe depuis combien de temps?
Elle existe depuis... Moi, j'ai commencé à travailler sur le projet depuis 2010. Vous voyez, il y a 14 ans. Mmh. C'est pas tout à fait nouveau. J'ai passé une grosse phase d'études, à étudier les différents domaines d'activité qui sont touchés par le projet. Il y a le domaine de la solidarité, il y a le domaine de ce qu'on appelle l'ESG dans les entreprises, hein, la responsabilité sociale aussi des entreprises. Il y a les acteurs publics, hein, les mairies, les CCAS, tout le travail social, le monde associatif. Enfin bon, bref, donc ça c'était vraiment pour moi un sujet d'étude. Et puis je suis arrivé dans les années 2018, entre 2018 et 2020, et là je me suis vraiment consacré au projet et j'ai programmé toute la plateforme. Donc c'est un travail technique considérable, hein. Ça représente 5 années de travail à temps plein, que j'ai, disons, consacré au développement de la plateforme. Et puis à partir de 2020, là, des contacts se sont pris, donc à la fois avec ce qu'on appelle des incubateurs, c'est-à-dire des structures capables d'accompagner le projet, alors à la fois sur le plan de ses dimensions, classique de l'incubation, hein, comment est positionné le projet, quels sont les domaines qui sont touchés, quels pourraient être, entre guillemets, les concurrents, parce que là, on est dans la solidarité, donc c'est plus des partenaires que des concurrents.
Et puis, donc c'est un peu la définition de projet, c'est à ça que sert un incubateur, c'est de dire qu'est-ce qu'on a à proposer, pour qui, pourquoi, où ça va, quels moyens de développement, voilà, c'est toutes les questions qu'on doit se poser.
Quel modèle économique, c'est-à-dire comment on finance finalement l'activité, quelle est la dimension d'engagement financier sur l'activité, etc.
Alors, tu es un tout petit peu modeste, parce que l'incubateur derrière, c'est quand même une plateforme nationale lancée par le ministère de l'économie qui développe la fintech.
Oui, je vais raconter.
Alors, ça, c'est un peu techno, mais c'est juste pourquoi ça a son importance. C'est pour dire que derrière, il y a quand même tout un écosystème de soutien au niveau quand même quoi, voilà, c'est pas développé dans son petit coin, c'est pas Christian qui à l'âge de la retraite bricole sa petite plateforme dans son coin tout seul quoi, voilà.
Non, pas du tout, non, il y a beaucoup, il y a ce contact que tu évoques, Finance Innovation, ça s'est fait de façon tout à fait hasardeuse, je peux raconter l'histoire, ouais. C'est assez marrant. Je sourçais, comme on dit, c'est-à-dire je regardais sur internet qui pouvait m'aider sur le projet, et puis je tombe sur ce Finance Innovation, Palais Brognard, quelque chose de très solide. Alors bon, je vous ai pas trop. Et puis je vois un numéro de téléphone. Je dis bon, moi je tente quand même. Donc je fais le numéro de téléphone et à l'autre bout répond une voix très lointaine, africaine et qui bégayait. Donc je comprenais pratiquement rien de ce qu'on me disait. Et je me disais dans ma tête, mais c'est pas possible. Là, je suis sur un plateau africain. C'est passé quelque chose avec le standard. Ils ont détourné le numéro de téléphone. Enfin. Et donc j'ai continué tout de même à échanger avec cette personne. Fort heureusement, je côtoie beaucoup d'amis africains, donc je comprenais à peu près ce qu'il me disait. Et en fait, c'est un jeune garçon qui faisait un master en informatique, qui n'était pas très très à l'aise avec le discours. Et donc on lui a dit, tu vas répondre au téléphone, ça va te faire du bien. Et bon, très franchement, je suis devenu ami avec lui. C'est lui qui m'a porté à l'intérieur de Finance Innovation, ce projet qui... Franchement, et Finance Innovation, c'est vraiment de la fintech, c'est les placements, c'est etc. Et puis, il a porté ce projet-là en disant, finalement, c'est une monnaie sociale, c'est une monnaie qui permet de faire quelque chose sur le plan social, et ça mérite d'être entendu, et ça mérite d'être soutenu. Donc maintenant, je suis effectivement soutenu par Finance Innovation. Mais il n'y a pas que, hein, j'ai les écoles de commerce, je vous dis que mon fils avait fait une grande école de management, le M Lyon. Donc j'ai travaillé avec des étudiants de ces écoles-là sur le projet. Donc il y a eu beaucoup de technicité apportée sur le
donc
projet.
Donc il y a une grosse technicité pour le fonctionnement, et puis alors, la régulation, comment elle se fait? Pourquoi cette question sur la régulation? Parce que derrière, quand on ouvre sa porte, on peut avoir un peu peur des gens qu'on peut accueillir chez soi. Donc comment on régule, comment on sélectionne les personnes, comment on identifie?
Alors sur la plateforme, on a, comme sur toute plateforme, des systèmes de réputation, ça s'appelle. C'est-à-dire que quand il y a un échange, on le voit. Hein. D'abord, c'est un contact par messagerie. Ensuite, si l'on se rencontre et qu'on fait un échange, il va y avoir une transaction, puisqu'il y a un paiement. Donc dans toutes ces étapes-là, on va pouvoir envoyer une information aux deux personnes concernées par l'échange et recueillir d'éventuelles alertes surtout. Hein, c'est surtout la notion d'alerte qui est importante.
Donc c'est des régulations qui se font par la communauté en fait.
Oui.
Sur le mode Blablacar par exemple, c'est la réputation.
Oui,
du...
bien sûr.
Voilà.
Ou Airbnb d'ailleurs.
Ou du Airbnb exactement. Voilà, oui, c'est des modèles qui aujourd'hui, on le voit, fonctionnent plutôt très bien.
Oui, et puis il y a autre chose aussi dans ce projet-là qu'on trouve peut-être pas sur d'autres plateformes, c'est que on est dans le contact, on est dans la proximité, c'est-à-dire que les gens se rencontrent. Dans la proximité, l'autre jour, vendredi dernier, on était à Saulx-sur-les-Nancy, la commune, la mairie avait organisé une réunion, eh bien ce sont tous des voisins, ce sont des gens qui sont connus de la mairie, donc on a aussi cette notion-là qui est très importante, c'est-à-dire une notion de confiance citoyenne, pour le coup, entre les personnes qui vont participer.
Donc c'est vraiment local. Pour le moment, tu te développes plutôt sur le quartier, sur le Nancy ?
sur Nancy, oui. Oui, ça doit se développer métropole par métropole, si je puis dire. Hein, donc mon choix, il y a une grande métropole, c'est Paris. Mon choix, c'est pas porté sur Paris, c'est porté sur la province. Et en province, l'idée, c'est d'avoir un modèle sur une métropole et de l'essaimer ensuite sur les métropoles voisines.
Madame, mademoiselle, messieurs, c'est la révolution du numérique pour faire société ensemble. Oh, c'est bon, The Wall, Pink Floyd.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
C'était un petit choix de notre invité, ce bon vieux Pink Floyd. Alors, on me rappelait que c'était, on l'avait déjà entendu dans l'émission, mais il y a longtemps. Pourquoi ce choix, Christian ?
J'aimais bien Pink Floyd. C'était pour moi des compositions qui disaient quelque chose sur notre société. Pour ceux qui ont connu Monet, etc. Enfin, voilà, ça. J'étais post-ado, on va dire, et vraiment, ça me parlait. Quoi.
Donc, il y a un petit sentiment de justice dans la société, de remettre les valeurs humanistes au cœur des
oui,
choix.
Oui, ça dénonçait déjà, pour parler de Pink Floyd, ça dénonçait déjà les dérives d'un système capitalistique, système consumériste, etc.
Et alors, donc justement, oui. C'est pas très étonnant qu'on arrive sur copartage.fr, tout attaché, copartage.fr, c'est bon, je l'aurais bien dit là, c'est bon. Pas étonnant qu'on y arrive, avec une dimension que je t'ai freiné pour le moment, je t'ai pas laissé tout dire, voilà, mais donc une plateforme de contribution, une plateforme de service, chacun apporte un talent ou un savoir-faire ou un savoir ou un outil qui permet de mettre en relation, et puis ça se valorise par un euro solidaire, c'est pas de l'argent selon attribution, c'est une monnaie symbolique qui peut s'échanger, voilà. Et puis en même temps, avec ce choix de Pink Floyd, ça fait le lien aussi avec cette volonté, on va dire, humaniste, que tous, y compris ceux qui peuvent avoir le sentiment d'être plus éloignés de la société, qui peuvent être en fragilité dans la société ou simplement en difficulté, puissent avoir aussi leur place dans le partage. Et là où ça devient un petit peu plus compliqué, mais on prenait le temps de bien poser la chose pour dire c'est une plateforme comme les autres de principes de partage, de compétences, de savoir, de talent ou de service, mais ça peut être aussi une plateforme accompagnée, accompagnante par d'autres structures type, tu l'as évoqué tout à l'heure, une mairie, un CCAS. Alors pourquoi un CCAS par exemple, si on poursuit sur l'exemple du centre communal d'action sociale d'une commune?
Mais parce que ce sont les CCAS qui sont en contact avec ces personnes fragiles. Et comme l'outil est accessible à tous, c'est une main tendue finalement. C'est une possibilité nouvelle d'avoir accès à des possibilités d'échange. Parce que, évidemment, la personne en situation de difficulté souhaite améliorer sa qualité de vie. Alors je note que c'est pas seulement en donnant un chèque à cette personne. Évidemment, ça lui fait du bien, hein, c'est clair. Mais ce n'est pas seulement en lui apportant un chèque qu'on règle les problèmes humains de cette personne-là. Il y a des personnes, par exemple, qui sont déprimées et qui sont musiciennes, j'en prends toujours le thème de la musique, et qui sont musiciennes et qui apprécieraient de simplement prendre un cours de musique. Ça leur est inaccessible. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire, nous offrons finalement un contenu de plateforme à une personne en situation de difficulté avec une offre qui est très très large. Et c'est au travailleur social de détecter ce qui pourrait, entre l'offre et les besoins de cette personne en situation de difficulté, finalement combler une partie de la difficulté et lui permettre d'envisager des perspectives enthousiasmantes.
Donc ça veut dire que la création de monnaie, elle est assurée par un accord entre copartage et la structure qui accompagne. Donc oui. Là, on prenait l'exemple d'un CCAS, mais ça peut être une association caritative avec laquelle il y a un bout de convention qui permet de dire, voilà, vous avez de l'euro solidaire, et puis on y contribue comme ça. Encore une fois, c'est pas là-dessus que tu fais de l'argent, c'est pas le but du jeu.
Il n'y a aucun argent là-dessus.
Il n'y a pas d'argent.
Mais on fait circuler de l'argent, on l'utilise pour que les personnes puissent accéder à...
Voilà, on fait circuler de l'argent solidaire pour que les gens puissent en profiter. Tu me donnais un exemple d'une maman qui avait un solo, qui avait un cancer, qui avait des enfants, qu'il fallait accompagner. Et ben voilà, il y a de l'euro solidaire qui est crédité, qui permet l'aide aux devoirs dont les enfants ont besoin, que la maman ne peut pas forcément toujours honorer. Voilà. Et ça, on avance comme ça en faisant en société. Christian, parce que le temps passe vite, il nous reste un peu plus de 5 minutes, mais seulement un peu plus de 5 minutes. Ce chemin-là, ce choix d'accélérer un petit peu sur copartage, même si tu nous l'as dit là à l'instant, que ça faisait 10 ans que tu étais depuis les années 2010, plus, même 15 ans presque, que tu l'avais un peu dans le cœur et dans le clavier. C'est suite à des dates importantes dans ta vie, c'est suite à des échéances. Alors il y a eu une date importante, c'est le 10 avril 2020. On va y venir, c'est une date importante parce que le même jour, la même nuit, tu as perdu 3 personnes de ta famille.
Oui.
On va y venir, c'était un déclic. Mais avant, il y a eu une phase de construction de Christian qui permet d'en arriver là. Déjà, tu me dis, c'est pas une date, c'est une période, c'est ma fin de mes études, l'entrée dans la vie active, où là j'ai fait j'ai une boussole qui m'a un peu orienté vers une orientation à la fois professionnelle et sociétale.
Oui. J'ai terminé mes études, donc je suis ingénieur en informatique. J'avais un frère jumeau, c'était noté. Et donc nous étions deux frères, et nos parents de milieu ouvrier insistaient pour qu'on fasse les études les plus importantes possibles. Quand je dis insister, c'était vraiment avec beaucoup de vigueur, on va dire, à l'époque.
Peut-être un peu de fermeté.
Voilà. Donc ça décrit un petit peu le contexte. Et là,
dans les Vosges,
j'arrive à la fin de mes, dans les Vosges, oui. Enfin, mes études, je les ai faites à Nancy. Et je suis arrivé...
Un vrai Vosgien, c'est bon ça.
Je suis arrivé à la fin de mes études et j'ai regardé les offres d'emploi qui m'étaient proposées à l'époque. Il y avait TF1, etc. Enfin bon, moi, il y avait tout un tas de belles opportunités.
Parce que tu étais ingénierie, déjà dans le numérique, on ne devait peut-être pas tout à fait appeler ça digital, mais c'était les années 80.
Ingénieur informatique.
Ingénieur informatique, voilà.
De formation. Et donc il y avait de l'appel, on va dire, du marché du travail, mais je me suis senti assez mal dans les entretiens que j'ai pu avoir, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne, qui a besoin de projets. Si je ne suis pas porteur de mon projet, alors je peux le faire collaborativement, bien entendu, qu'on partage un projet collaboratif, mais en même temps j'ai besoin de m'inclure et de m'insérer dans ces projets-là, mais d'une façon presque entière, si je puis dire. Donc j'ai décidé à ce moment-là de ne pas rentrer dans un plan de carrière, mais de rester indépendant, et je suis resté indépendant.
C'est déjà un petit peu la culture informatique, hein. C'est un peu la culture informatique, ça c'est quand même le développement de projets, c'est quand même ça qui...
Ah bah oui,
c'est ça qui...
La créativité, et puis les projets, et puis le fait d'arriver finalement à concrétiser des choses qui... vraiment une notion de l'ingénierie, de concrétiser quelque chose qui n'existe pas et réussir à faire, en faire quelque chose de réaliste. Quoi.
Pour comprendre copartage.fr, on fait connaissance avec Christian. Donc, première période importante, c'est le moment de la bascule où on s'est dit, il faut que je m'engage dans du projet. Il faut que je m'engage dans projet. J'ai besoin d'un bagage. Je viens d'un milieu ouvrier, mais j'ai besoin d'un bagage universitaire. Et je m'engage dans un produit où je peux développer, je peux créer. Ça, c'est une première phase. Une deuxième phase de Christian, c'est... pas une date, c'est un regroupement familial.
Oui, c'est très exactement le moment où mon dernier fils réussit ses concours d'entrée à l'école de management, donc le M-Lyon, qui est une grande école. Et là, on avait trois enfants, il y avait deux sœurs qui précédaient, et avec mon épouse, on avait réussi le projet qui était le nôtre. Hein. Je précise que mon épouse était élevée par une famille d'accueil, et que pour elle, la famille, c'était très important. Donc on avait cet engagement mutuel de dire, nos enfants, on va les accompagner le mieux possible, on va leur donner toutes leurs chances, etc. Et
quand le petit dernier a décroché son entrée dans l'école,
eh bien, on arrivait au bout, quand on avait accompli notre mission, on était fiers de ce qu'on avait fait. Alors évidemment, il y a encore une continuité après dans les relations avec nos enfants, mais enfin, ce stade d'accompagnement-là terminait en définitive, finalement, le cursus d'accompagnement des enfants et on était fiers de pouvoir les projeter et de les voir comme ils sont aujourd'hui.
C'est rigolo hein, quand même, comme quoi c'est toujours en même temps tout un système. C'est pas une date que tu donnes déjà, c'est
non,
pas trop
c'est
là, mais c'est des périodes,
c'est périodes
qui constituent
dans la vie.
Voilà, un aboutissement d'un projet, d'un système.
Oui. Oui,
C'est pas tout seul, c'est avec d'autres, c'est en tenant compte de ce que tu es, de ce que les autres sont pour avancer.
Tout à fait, tout à fait.
Alors là, c'était deux dates, j'allais dire, un peu faciles. Il y a une troisième date importante, le 10 avril 2020, tu perds le même jour trois personnes dans ta vie.
Oui, alors j'ai pas perdu mon père, mais mon père était donné pour mort, il était tombé, alors je précise aussi que le 10 avril, on était en période de confinement. Chacun chez soi. Que j'habitais à Remiremont et qu'à Remiremont, l'hôpital avait dans son sous-sol une trentaine de cercueils qui venaient de l'EHPAD de Cornimont. Mon père tombe dans son jardin, se retrouve aux urgences à l'hôpital et le médecin donne un pronostic engagé sur sa survie, 85 ans, donc c'est dit bon, voilà. Et on a préparé le soir ses obsèques avec ma mère, parce qu'à l'époque... que les obsèques c'était 2-3 personnes, enfin bon il y avait des conditions qui étaient très très strictes et puis surtout il fallait sortir de l'hôpital, enfin bon je vais pas parler très longtemps parce que évidemment c'est des moments très 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 compliqués et dans la même nuit ma fille qui devait accoucher finalement se trouve dans une situation très compliquée avec un enfant non vivant, enfin qui n'a jamais respiré, donc ça c'est absolument terrible pour la famille. Et puis au petit matin, j'allume mes emails d'une façon très automatique, si je puis dire. Et là, j'avais une de mes meilleures amies qui était morte d'une rupture d'anévrisme. Et franchement, j'ai été anéanti.
Et là, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose de ma vie.
Je consacrerai ma vie à l'entraide, la solidarité. Il faut que je lui donne du sens, parce que ça n'avait plus de sens à ce stade-là. Ça n'avait plus aucun sens. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre au petit Pintin, je n'ai pas dormi de la nuit, et je me suis vraiment livré à la vie. Pour faire simple, en haut, en bas, j'aurais pu être une bestiole. Ça n'avait aucun sens. Franchement, aucun sens. Le seul réconfort que j'avais, c'était dans la vie. C'est la vie qui me donnait ce réconfort-là. C'était de voir un arbre bouger, c'était de voir le ciel avec ses nuages, c'était de dire, je suis là, j'aurais pu être ailleurs, ça ne m'aurait pas dérangé du tout, mais puisque je suis là, puisque je respire et puisque je suis vivant, je consacrerai ma vie à faire en sorte que ce soit une belle fin de vie, si je puis dire, même si elle dure encore 40 ans, que ça ressemble à quelque chose. Voilà.
Merci pour le bonheur de la vie avec copartage.fr.
RCN Radio Caraïbes Nancy 90.7.
RCN, écoutez la différence.